La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Il suffirait, au fond, pour saisir d'emblée ce dont nous allons parler aujourd'hui, de placer côte à côte n'importe quel tweet de l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, et n'importe quel discours de son prédécesseur, Barack Obama. Facile mais efficace, cette apposition résumerait à elle seule et à la mode spectaculaire d'aujourd'hui l'évolution rapide de certains types d'interventions dans l'espace public. C'est ce passage du storytelling qu'il avait documenté très tôt au Clash que s'efforce d'analyser Christian Salmon dans un brillant nouvel essai, L'ère du Clash. Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Et pour dialoguer avec Christian Salmon dans la deuxième partie de l'émission, Samuel Gontier, qui est journaliste à Télérama, où il tient la chronique télévision, à la fois dans l'édition papier de l'hebdomadaire, mais aussi sur le site internet sous forme d'un blog, chronique qui permet de penser cette articulation désormais très étroite entre le petit écran de la télévision et ceux de nos téléphones, ceux de nos timelines, Twitter en particulier, là où se déploie pleinement cette ère du clash dont il sera question aujourd'hui. Bonjour Christian Salmon.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous publiez donc L'ère du clash aux éditions Fayard. Il est précisé tout de suite sur la couverture du livre que c'est la suite de storytelling. Normal, quand on raconte des histoires, il y a toujours une suite, il y a toujours un volume 2. Storytelling, c'est un livre que vous aviez publié il y a un peu plus de 10 ans et qui nous faisait connaître en France cette technique de management, cette technique de communication politique qu'on utilisait dans les entreprises et dont vous dites dans l'ère du clash, au fond, qu'elle a été portée à son stade le plus avancé sous la présidence de Barack Obama, avec les gens qui l'entouraient, avec le président lui-même. Et tout ça ne s'est pas effondré, tout ça continue d'exister, et on serait un peu naïf de penser que ça puisse disparaître aussi rapidement. Mais tout ça a été néanmoins bousculé par la mutation numérique ou certains de ses aspects, probablement d'ailleurs par des phénomènes antérieurs à ça, parce que il ne faut pas raconter d'histoire sans doute trop mécanique. Enfin, j'espère que c'est ce que vous nous expliquerez aujourd'hui. En tous les cas, on n'est plus dans la même situation qu'au moment où Barack Obama est élu président en 2008. Les choses ont changé quand même assez vite et il suffit donc, pour s'en rendre compte, de comparer la manière dont s'adresse le nouveau président américain au monde entier à travers ce réseau social qu'est Twitter. Il ne s'agit pas de réduire tout à ça, mais c'est une bonne porte d'entrée peut-être, Christian Salmon, pour commencer.
Oui, comme tout ce qui nous arrive depuis les années 2000, enfin c'est multifactoriel, hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des éléments qui sont socio-techniques, la révolution numérique, l'apparition des réseaux sociaux en 2005, mais il y a également des phénomènes politiques, ce que j'appelle la spirale du discrédit politique, qui est vraiment très sensible à partir de 2008, qui marque la crise à partir de la crise des subprimes et qui donc met en crise en quelque sorte tous les récits, tout le storytelling qui portait cette idéologie néolibérale par les différents gouvernements européens et américains. Bien tous ces récits s'effondrent. Et donc la nouvelle, c'est que, puisque moi j'ai suivi la campagne pour Le Monde, la campagne électorale de Barack Obama, puis celle de François Hollande, et maintenant avec Mediapart, je suivais donc un petit peu la campagne de Trump. Et j'ai été frappé de je cherchais évidemment, conformément à mon modèle du storytelling, quel récit nous raconte Trump ? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène ?
Et vous aviez du mal à trouver les histoires.
Évidemment, j'ai très vite compris, ça a été le facteur qui a déclenché en fait ce livre, hein, c'est que j'ai compris que ça fonctionnait pas au storytelling, qu'il racontait pas une histoire.
En fait, c'est un sentiment d'incohérence d'abord qui frappe, non ?
Alors d'abord une sorte de non-discours. On avait quand même été habitué avec Barack Obama à écouter des discours magnifiques. En fait, du point de vue de l'art du récit politique, c'était le zénith en 2008. Et le paradoxe, justement, c'est que c'est au moment où le storytelling arrive à son zénith que la crise des subprimes va ruiner ce qu'on appelle le crédit dans le narrateur. Hein. Et donc Barack Obama continue son rôle de narrateur, puisqu'il passe de la politique au récit proprement dit, en signant un contrat avec Netflix, et il dit lui-même, si je ne savais pas raconter des histoires, je n'aurais jamais été président.
Vous citez un discours de Barack Obama à Las Vegas, peu de temps après qu'il ait quitté la Maison Blanche, et après qu'il ait signé ce contrat avec Netflix, c'est effarant. Enfin, c'est cette analyse qu'il fait sur le storytelling et la reconversion comme producteur pour cet acteur qui incarne peut-être le mieux la mutation du commerce des histoires désormais dans le monde digital est spectaculaire.
Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est finalement de voir que un président qui a gouverné pendant deux mandats, finalement sort de la sphère politique et en quelque sorte va dans la sphère numérique, la sphère des fictions, la sphère des séries, comme si c'était là que les choses se passaient. D'ailleurs, il dit, on est dans une bataille des récits aujourd'hui, et moi je choisis d'investir mon temps et mon argent dans un récit constructif.
Mais c'est, Christian Salmon, c'est à rapprocher du fait, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, que au fond pour nous, comme pour tous les spectateurs, peut-être encore d'autant plus d'ailleurs qu'on est à distance, et qu'on regarde ça depuis la France, Barack Obama, tout ce qui lui arrive, on le regarde comme une série télévisée. On a appris à le regarder comme ça, et il faut que de temps en temps on se reprenne en quelque sorte pour se dire mais non, mais on a affaire à de la politique réelle, c'est un pays, on n'est pas dans une série. Mais au fond, ce brouillage s'est organisé durant toutes ces années et la décision de Barack Obama d'aller chez Netflix, au fond, participe de cette même croyance partagée.
Absolument, et participe aussi de la dépolitisation. C'est-à-dire que c'est comme si la sphère politique ne suffisait plus à porter un grand récit cohérent et fascinant. Donc quand surgit la campagne de Trump, d'ailleurs personne n'y a cru, ni même à son choix par le Parti républicain, et puis une fois qu'il a été choisi, sa campagne a été complètement chaotique, reprise en main au mois d'août par le fameux Steve Bannon, et une victoire au dernier moment, surprenante, incompréhensible, qui a été vécue par beaucoup des supporters d'Hillary Clinton, mais beaucoup aussi d'Américains et d'Européens, comme une véritable catastrophe, c'est-à-dire un séisme. On n'est plus dans le récit, on est dans une sorte d'escalade. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, mais qui est très intéressant. C'est-à-dire que Barack Obama était porteur d'un récit cohérent, inclusif. Vous savez, les États rouges, les États bleus, démocrates, républicains, ils portaient un discours de réconciliation entre les civilisations, après deux mandats de Bush où c'était l'axe du mal et le choc des civilisations. Et il était également porteur d'un espoir. Donc, en quelque sorte, il a été élu parce qu'il a crédité la politique. Il recréditait la politique. Rien de tel chez Trump. Il fonctionne au discrédit. C'est un peu comme un spéculateur sur un marché financier qui mise à la baisse. Et donc Steve Bannon l'a très bien expliqué. À partir du constat, Steve Bannon dit la victoire de Trump, elle a commencé le jour où les banquiers, en 2008, sont allés voir l'État fédéral pour demander de renflouer les banques. Les Américains ont compris, enfin les Américains blancs, favorables au port d'armes, etc., ouvriers, délaissés, abandonnés, trompés par les élites démocrates, donc se sont mobilisés contre ces élites. Et Bannon dit, mais en fait, on a commencé la campagne avant même que Trump soit candidat. Pourquoi ? Parce que on a discrédité Hillary Clinton, comme la porteuse du... Alors qu'elle essayait d'accréditer, elle, un nouveau récit historique après le premier président noir, la première femme présidente, l'équipe de Breitbart et toute l'équipe de Bannon ont discrédité, ce qui a favorisé la montée de Bernie Sanders. Et au final, toute la campagne de Trump est une campagne au discrédit. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à réconcilier, il cherche à cliver. Toutes ses positions sont insuffler la haine, insuffler le discrédit et légitimer ce discrédit.
Et la confusion, on y viendra, le brouillage, parce que ça fait partie aussi des techniques. Mais pour comprendre pourquoi un acteur qui marche au discrédit, qui encourage le discrédit, peut fonctionner, avoir de l'effet, sans doute faut-il s'interroger sur les moteurs des médias parce que de façon très très troublante, cette candidature de Trump à laquelle personne ne croyait, dont vous parliez, et qui faisait peur à certains des amis d'Hillary Clinton, pouvait en réjouir d'autres et assez longtemps. Et je pense là au propos de Lev Moons, le patron de CBS, qui se réjouissait peu de temps avant la fin de la campagne pour la primaire du fait que Trump lui donnait des audiences inespérées sur sa chaîne, alors même que Trump ne dépensait pas un centime de publicité dans la télévision, ce qui était une nouveauté. En fait, il faisait gagner néanmoins beaucoup, beaucoup d'argent aux chaînes de télévision privées, non pas par la publicité, mais simplement par ses performances et le fait que, dès qu'il disait quelque chose, les audiences de ces chaînes d'information en continu ou pas explosaient. Donc, il y avait un intérêt économique à ce discrédit proposé par Trump, intérêt économique d'acteurs politiques qu'on pouvait estampiller démocrate. Si on comprend pas ça, on comprend pas la logique. Si on a une grille de lecture purement idéologique, on passe à côté.
Absolument, absolument. C'est pour ça que je parle de spirale du discrédit, parce qu'il y a plusieurs cercles qui se renforcent et qui créent cette surenchère. On a, pour aller vite, je pense qu'on peut dire qu'il y a trois vagues successives qui nous amènent à l'ère du clash. La première, c'est 2001, avec l'attentat contre le World Trade Center, et en quelque sorte, vous savez, on dit souvent, ce sont les questions restées sans réponse qui produisent du récit. Ils produisent du récit, mais ils produisent aussi du complotisme. Donc le 11 septembre a été déjà le début. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais Internet existait. C'est la flambée du complotisme, du discrédit, du discours officiel. Même la commission d'enquête n'est pas accréditée. Le deuxième, donc, c'est le deuxième cercle de la spirale, c'est 2005 avec l'apparition des réseaux sociaux. Et la troisième, on en parlait à l'instant, c'est la crise de 2008 qui décrédibilise le grand récit néolibéral qui est quand même dominé depuis les années 90.
Là, c'est la crise au sens propre du fides, du fiduciaire.
On Absolument.
Est dans le crédit au sens original du terme.
Absolument. C'est comme, je dis souvent, l'inflation monétaire ruine la crédibilité dans la monnaie. L'inflation narrative ou l'inflation discursive ruine la crédibilité de tous ceux qui racontent une histoire, de tous les énonciateurs, de toutes les autorités, en quelque sorte, discursives, qu'elles soient journalistes, ou plutôt qu'elle soit médiatique, qu'elle soit politique, qu'elle soit scientifique, climato-scepticisme, etc. Donc, pour en revenir à ce que vous dites, c'est très intéressant parce que il y a là la base socio-technique de ce mouvement qui va bouleverser l'économie des discours. Vous savez, c'est Morozov qui dit les réseaux sociaux ont fabriqué leur propre théorie de la vérité, leur propre régime de véridiction. Hein. C'est la vérité, c'est ce qui accroche le plus de perdus. Et comment on accroche le plus de perdus dans cette économie générale du discrédit? Eh bien, par des transgressions toujours plus énormes. Alors Trump, de ce point de vue-là, a été fantastique parce que évidemment, il ne racontait pas d'histoire, il ne faisait monter l'audience que par la surenchère, les fake news, les provocations les plus fortes en réponse aux attentes de son électorat. Donc si vous voulez, c'est frappant de voir. Moi, quand j'ai fait le livre Storytelling, j'ai commencé par étudier le marketing, en fait. C'est dans les théories du marketing qu'on comprend vraiment comment ça fonctionne, hein. C'est là qu'on a vu apparaître le primat du récit dans la publicité et du marketing à la communication politique. De la même façon, l'ère du clash, je l'ai vu venir, par exemple, avec un article d'un théoricien du marketing qui publie, il y a quelques mois, un grand article dans la revue Forbes, dans lequel il dit « il nous faut en finir avec le storytelling ». Pourquoi ? Parce que la croissance exponentielle des données, hein, je rappelle que le patron de Google disait en 2013, si on comptabilise le nombre de bytes qu'il a fallu depuis les origines de l'histoire de l'humanité jusqu'à 2005, hein, il chiffrait ça en 5 milliards de bytes, cette production d'énoncés, d'informations, cette croissance exponentielle des données, elle est en 2011, elle était produite en 2 ans. C'est-à-dire ce qu'on avait produit jusqu'en 2011, depuis l'origine de l'humanité, s'était rattrapé en 2 ans, produisait la même chose. Et en 2013, au moment où il parle, c'était tous les 2 jours. C'est-à-dire que tous les 2 jours, la montagne d'énoncés qui est produite et diffusée correspond à ce qui était jusque-là depuis l'histoire de l'humanité. Donc ce théoricien du marketing prend en compte ça, il dit sur les réseaux sociaux, nos histoires, les histoires des marques, etc., ne sont plus écoutées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont mises en compétition, soit avec des informations, soit avec des clashs, soit avec des fake news, soit avec aussi les histoires que les internautes racontent, que les adhérents, enfin les followers racontent, et ça ne marche plus à l'intrigue, ça ne marche plus au suspense, mais ça marche à la transgression, la transgression remplace l'intrigue, et le tweet qui fait du buzz remplace l'histoire captivante.
Ce que vous décrivez, Christian Salmon, à propos de du marketing, du monde du marketing qui se rend compte assez tôt de tout ça, on pourrait aussi l'observer, et vous le faites, dans le monde des médias et du journalisme en particulier. Le mot de story, en français, il sonne un peu exotique, story, storytelling, et on le renvoie plus spontanément à l'univers de la littérature, mais le mot de story est le mot clé du journalisme aux États-Unis. Story, c'est article. Quand on écrit un article, on parle d'une story, c'est-à-dire que absolument, cette dimension narrative, la dimension littéraire n'est pas nécessairement présente. Néanmoins, il s'agit toujours d'écrire sur le mode du « il était une fois » qui est au cœur de cette culture journalistique anglo-saxonne, en tout cas, et pas que, mais au moins en anglais, on le dit clairement. Cela étant, ça nécessite des formats de journalisme qui laissent le temps du récit. Il était une fois, ce n'est que la première phrase, il faut pouvoir continuer. Or, aujourd'hui, on a le droit souvent qu'à la première phrase, quand on est limité à 144 signes, mais aussi de façon plus générale dans les formats des médias qui ont considérablement réduit. Et je me demande, au fond, c'est l'hypothèse que je voulais vous soumettre, en vous lisant, j'y ai pensé comme ça, je me suis dit, au fond, est-ce qu'on n'a pas vu peu à peu dans le référentiel journalistique le plus partagé le remplacement de cette référence au récit à travers ce mot de story par le remplacement d'une autre forme d'objectivation de la réalité qui est cette croyance très naïve au fond de beaucoup de journalistes dans la capacité à produire de l'objectivité par le clash. C'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure la véridiction c'est le nombre de gens dont on capte l'attention, mais souvent dans le journalisme, on peut avoir tendance à penser qu'on produit quelque chose d'objectif dès lors qu'on met côte à côte, qu'on appose des gens qui disent l'un blanc, l'autre noir. On connaît par cœur et c'est le régime du pif-paf qu'on voit partout sur ces chaînes d'information en continu. Et c'est devenu un mode opératoire, au fond, du journalisme assez peu interrogé. Et je me demande si, au fond, cette histoire du basculement du storytelling vers le clash n'est pas aussi l'histoire d'une prise de pouvoir à l'intérieur du journalisme, du pif-paf sur le storytelling à l'ancienne, sur la narrative non-fiction que, par ailleurs, on célèbre dès lors qu'il s'agit maintenant de grands journalistes américains qui produisent de la littérature et qu'on va acheter désormais en librairie et plus dans les journaux, Christian Salmon.
Mais vous avez tout à fait raison. La tyrannie du pif-paf, moi je dirais, c'est la tyrannie d'audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour captiver les audiences, il faut provoquer des messages. On en fait tous l'expérience. C'est pas, il y a rien de mystérieux dans ce que je raconte. Moi, quand je tweete quelque chose qui est sur le mode, je partage un article qui m'a paru intéressant. Tout au plus, je vais avoir quelques amis, dont vous, Sylvain, et vous, Samuel, par exemple, qui vont retweeter. Mais si vous balancez quelque chose à la suite d'une révélation de Mediapart auquel je collabore, immédiatement, le nombre de retweets va être multiplié par 100 ou 200. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'objectif, c'est de faire monter ces retweets, ces likes, pour que les grosses machines, parce qu'on n'a pas encore parlé des GAFAM, mais il faudra pas l'oublier, pour que ces grosses machines repèrent ces messages.
Et que leurs algorithmes les prennent en charge.
Et les algorithmes les reproduisent. Donc ça crée une sorte de vortex médiatique, une sorte d'aspirateur géant qui aspire l'attention des gens sur des messages qui sont finalement, on se réveille le matin, on regarde Twitter, ce sont les mêmes messages, c'est-à-dire ceux qui ont cumulé ces tweets, ces retweets et ces likes, etc. Donc au niveau des des médias en continu, c'est la même chose. Ces médias qui tournent dans les cafés, dans les maisons, dans les etc. Mais sont espèce de rumeurs permanentes, ont besoin de pics d'attention, de saillies. Et ces pics, ces pics d'attention, comment on les produit? Eh bien, par le clash. C'est-à-dire en produisant des scandales, des énonciations, ou bien ces numéros rituels dont vous parliez, pif-paf, hein, c'est-à-dire que on prend une thèse et l'antithèse, on les met et on se hurle dessus, et donc les gens prêtent l'oreille en disant tiens, il y a quelque chose qui dépasse un peu la rumeur ambiante.
Et là, on pourrait dire au fond qu'on est même plus dans le clash, on est dans le catch au sens de ce sport truqué, avec ce que l'écrivain et médecin Christian Lehmann appelle la connivence de plateau, où des gens en fait s'amuse à faire les compères sur les médias. Ils font comme si ils s'engueulaient, alors que en fait ils forcent le trait en quelque sorte, parce que c'est ce qu'on leur demande. Et d'ailleurs, Christian Lehmann documentait ces demandes de la part d'un directeur de chaîne d'information continue en parlant de ses interventions comme de celles d'un personnage qui devait caricaturer davantage son propos pour être efficace. Christian Lehmann.
Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je le dis en passant dans le livre, c'est très frappant que Trump est le maître, le prophète provisoire de l'ère du clash, mais il est aussi le praticien du catch. Il est passionné par le catch, et on a ces images qui ont circulé sur Internet où il s'attaque lors d'un combat de catch, il se jette sur l'arbitre ou le producteur du spectacle, je ne sais plus. Ces images sont reprises quand il y a une affaire, un scandale avec CNN aux États-Unis où le type qui est assailli par Trump il y a quelques années, et son visage est recouvert par le logo de CNN. Donc c'est archétypal. De même, dans l'affaire Benalla, moi ce qui m'a frappé dans l'article que j'avais fait au mois d'août, hein, c'est-à-dire après les révélations du Monde et de Mediapart sur
début de l'affaire.
Hein. Voilà, on avait simplement les images de la contre-escarpe et du jardin des plantes. Mais sur la contre-escarpe, moi quand je regardais ces images, je me disais c'est bizarre, c'est la manière de jouer. Cette agression c'était vraiment les gestes du catch jusqu'à la semelle qui les suit sur la poitrine du pauvre grec manifestant. Et donc je me disais, mais c'est incroyable, parce qu'en fait, vous savez, lorsque Trump a fait campagne, un journaliste américain, souvent les Américains sont un peu plus rapides que les nôtres, journalistes, avait été chercher l'article de Roland Barthes dans Mythologie, dans lequel il parle le monde dans lequel on catch. Et il disait, pour comprendre Trump, il faut avoir lu Roland Barthes. De la même manière, ça m'a frappé, parce que j'avais vu la même expérience pour le storytelling, lorsque Bush avait dit dans son discours d'ouverture une quinzaine de fois la story, etc. Il y avait un éditorialiste du New York Times qui avait dit, il faut lire... l'article de Barthes qui date qui est plus ancien encore, qui introduction à l'analyse structurale du récit, dans lequel il disait nous avons tous des récits, les récits sont partout, il faut les analyser, les structurer, etc. Donc l'esthétique du catch dans le cas de Benalla, ça signifiait, j'écrivais dans la chronique que j'ai faite pour Mediapart, j'y voyais comme une sorte de mise en scène où ce qui est en jeu, c'est au fond la vérité. Enfin, il était avec ces gestes-là, le fait qu'un conseiller du président descende dans la rue et se mette à faire le coup de force comme ça contre un même gratuitement, ça mettait en évidence la vérité du régime. Et cette vérité, c'était la violence. Et je suis troublé maintenant quand je vois la violence qui s'étend partout contre les gilets jaunes, ces images auxquelles on s'habitue, qui sont encore... Il y a une violence réelle, les éborgnements, les blessures, les mains arrachées, etc. Mais il y a aussi cette violence symbolique qui est la représentation de ces photos qui se répand partout, qui nous habitue au fond au fait que le régime règne par la violence, en exerçant la violence. Et donc on a une sorte d'esthétique du catch qui devient une sorte de forçage de l'opinion, c'est-à-dire qu'on ne peut gouverner qu'en forçant l'opinion et en exerçant la violence. Et donc on est beaucoup plus finalement dans une société du tacle, je dis, que dans une société du spectacle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est vraiment dans ce tacle permanent qui permet de se distinguer, de se mettre en évidence. Et d'une certaine manière, vous savez, on ne comprend pas la stratégie de Benalla. Mais Benalla, c'est Kardashian. C'est-à-dire qu'il est il a acquis une notoriété fantastique avec ses affaires et peu lui importe les mises en examen ou les possibles inculpations. Parce que même ces inculpations vont alimenter sa stratégie de devenir populaire, en fait.
Cette affaire Benalla en cours, au fond, elle permet de comprendre d'ailleurs comment le régime du storytelling et le régime du clash peuvent parfaitement cohabiter, s'articuler. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas avoir cette impression d'un changement, d'un remplacement du storytelling par le clash. Là, pour bien comprendre ce qui se passe, d'ailleurs, elle est perçue, cette affaire, comme une série télé. Il suffit de regarder sur Twitter la manière dont les gens, beaucoup de lecteurs, reçoivent les derniers développements. C'est vraiment avec les codes des séries télé qu'elle est reçue, analysée, commentée par tout un chacun désormais.
Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on dans le livre là, je ne pensais pas du tout à essayer de démontrer qu'on passerait de l'ère ou du paradigme du storytelling au paradigme du clash. En fait, il y a tuilage. C'est-à-dire que la vérité de tout ça, c'est au fond qu'on est dans une grande révolution à la fois de l'économie des discours, du discrédit de tous les acteurs et de tous les énonciateurs. Mais au fond, les codes, ce qui est la vérité, s'il fallait choisir un paradigme, c'est l'affrontement des codes. Et donc, parfois, c'est la série télé, parfois c'est le clash, parfois c'est le catch, et on oscille comme ça, et on s'empare au fond de ces codes, de ces paradigmes, en fonction de l'unique objectif qui est de capter l'attention, ce fameux vortex médiatique dont je parlais.
On continue de parler de cette évolution des médias dans la deuxième partie de l'émission avec Samuel Gontier qui nous rejoint. On écoute d'abord un extrait du nouvel album de Mercury Rêve qui est en fait un remake d'un album de Bobby Gentry sorti il y a 50 ans. Et pour ce premier morceau, Mercury Rêve a invité Norah Jones. They'll come to judge each and every entry. There was a trial for the old Kelowna band. All the way from Kosciuszko, up from Biloxi Shore. All in all, there's not a half-grown man that wouldn't like to be in the old Kelowna River by.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
L'ère du clash, c'est le titre du livre de Christian Salmon dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. Et on en parle dans cette deuxième partie avec Samuel Gontier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Télérama où vous tenez la chronique télévision et puis chronique qu'on retrouve de façon plus régulière aussi qu'une fois par semaine sur le blog qui s'attache au même sujet. Et vous la tenez, cette chronique, depuis 10 ans, c'est-à-dire, au fond, la même période qu'a regardé Christian Salmon depuis storytelling jusqu'à aujourd'hui. Sauf que vous êtes la tête dans le guidon, si j'ose dire, ou la tête face à deux écrans désormais, celui de la télévision, d'une part, mais aussi celui de votre téléphone ou votre ordinateur, je sais pas sur quoi vous tweetez, puisque vous êtes également très présent sur Twitter. Au fond, ces 10 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses, mais l'une des choses importantes, c'est peut-être la manière dont s'articulent ces deux médias, télévision et tweet, et ces articulations nous permettent en partie de voir ce qui se joue dans cette ère du clash, Samuel Gontier.
Oui, Christian Salmon a rappelé tout à l'heure que les réseaux sociaux sont apparus en 2005. Il se trouve qu'en France, les chaînes info sont aussi apparues en 2005. Enfin, elles existaient avant, mais elles étaient sur le câble, enfin, elles étaient payantes en gros. Et elles sont arrivées vraiment sur la télévision gratuite avec la TNT en 2005, avec l'apparition donc de BFM TV et d'iTélé qui est arrivée en gratuit. Puis ensuite, donc, iTélé qui est devenue CNews, et puis ensuite LCI, et puis la chaîne France Info. Et effectivement, en France, il y a vraiment une concordance entre ces deux phénomènes qui a donc provoqué ce vortex dont parlait Christian Salmon, que en prenant une référence un peu plus ancienne, on pourrait parler aussi de circulation circulaire de l'information qu'avait diagnostiqué Pierre Bourdieu dans son livre sur la télévision. Alors, il avait diagnostiqué justement lui 10 ans avant, en 96, au moment où l'internet n'existait quasiment pas. Mais ce qu'il avait diagnostiqué était effectivement très très juste, et ça n'a fait que s'amplifier, voilà, que se développer. Le vortex a pris une puissance incroyable à partir justement de 2005.
D'ailleurs, les chaînes d'information, vous rappeliez de 2005, 2007, c'est l'élection de Nicolas Sarkozy. On l'a beaucoup associé, cette élection, aux chaînes d'information qui faisaient irruption. Ça a été beaucoup souligné à l'époque, l'adéquation entre les deux. Peut-être Twitter en France a pris un peu plus de temps pour avoir un rôle important.
Oui, et les chaînes d'info ont mis du temps aussi à prendre de l'importance, je pense. Enfin, au départ, c'était quand même un public de niche, c'était pas forcément... Alors que maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, BFM TV est partout, enfin, les chaînes d'infos sont partout, dans les cafés, partout, dans les rédactions, dans les salles de rédaction, dans les ministères, c'est BFM TV qui tourne en permanence, il y a des écrans qui tournent en permanence.
Dans les salles de rédaction, c'est des autres médias, c'est ça qui est très important.
Des autres médias, que ce soit écrit, radio ou télé, voilà,
c'est la référence.
C'est la référence. Voilà, que fait BFM TV en ce moment, de quoi parle-t-il ?
Christian Salmon, sur cette importance des chaînes d'information qui, effectivement, on aurait tort de croire que sous prétexte qu'il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, la télévision a complètement disparu du paysage. En fait, c'est plutôt la manière dont les deux s'articulent qui peut produire des choses très très fortes. Et on le voit, on peut prendre l'exemple des Gilets jaunes, par exemple. D'ailleurs, on a reproché à BFM d'être pro-Gilets jaunes, d'avoir fait exister le mouvement. C'est le discours de La République En Marche. Et puis, alors que les Gilets jaunes ont pris aussi pour cible BFM. Donc, tout ça est assez... complexe.
Il y a une boucle ascensionnelle, hein, de ces moyens de production, mais on pourrait mettre aussi, il n'y a pas seulement Twitter, les chaînes télé, il y a aussi les fameuses GAFAM, hein. Alors, juste une anecdote pour montrer le rôle de ces GAFAM, c'est que lors de l'élection de Bolsonaro, le nouveau président brésilien, les supporters de Bolsonaro se réunissent le soir de sa victoire, et il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux aujourd'hui où on le voit ça très 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 clairement. Et normalement, lors de la victoire d'un candidat, on clame le nom du candidat. Eh bien, les supporters de Bolsonaro ne clamaient pas Bolsonaro, ils clamaient Facebook, WhatsApp. C'est-à-dire les deux vecteurs,
les outils
de la victoire de Bolsonaro. Mais en même temps, ça a un retentissement symbolique énorme. Parce que ça veut dire quoi? De scander le nom d'une application. C'est-à-dire que ça signifie, c'est un peu, c'est très baudrillardien pour le coup, hein, parce que c'est comme acclamer au fond, acclamer la technique. Ça montre à quel point il y a dépolitisation dans la victoire de ces nouveaux as du discrédit dans lequel je mets Trump, mais aussi Bolsonaro, mais aussi Cinquestrelle et le premier ministre et le ministre de l'Intérieur italien Salvini.
Samuel Gontier, il s'est passé tout ce qu'on a dit, les chaînes d'information continuent, les réseaux sociaux, mais il s'est passé autre chose aussi à la télévision que vous regardez donc depuis longtemps et très attentivement, avec les formes de mise en scène des émissions de débat, où ce clash est absolument central dans les dispositifs de mise en scène au fond. Et moi, je faisais l'hypothèse par rapport à ce qui se passe avec ce mouvement des Gilets jaunes, et en particulier le discrédit qui frappe les médias, Gaga. Je faisais l'hypothèse que, au fond, la relation que beaucoup de gens se sont mis à avoir avec leur télévision était une relation un peu compliquée, un peu perverse. Celui qui l'a bien montré dans un livre il y a déjà quelques temps, c'est Bernard Lahir, à propos des émissions d'Ardisson, quand il disait au fond, les gens adorent détester regarder la télévision. Là où l'audimat se contente de mesurer la quantité de gens, il ne prend pas en compte cette chose très très bizarre que on adore s'énerver en regardant la télévision. Et au fond, je me demande si c'est pas ça qu'on voit un peu surgir dans ces formes les plus radicales de critique des médias, c'est-à-dire on a sous la main les gens contre lesquels on a l'habitude de s'énerver dans son salon au fond, et là on le fait physiquement. Donc il faudrait presque faire une histoire de tous ces dispositifs télévisuels où on met en scène des méchants, des gens qui sont là pour s'en prendre plein la figure. Enfin, c'est des logiques de guignol, hein, très très classiques, mais qui ont pris des formes depuis Baffy à côté de Chavannes jusqu'à Hanouna aujourd'hui, qui est peut-être la quintessence de ça. Enfin, vous devez le regarder plus souvent que moi, Samuel Gontier.
Oui, ça m'arrive, oui. Effectivement, c'est... Effectivement, on adore... Moi-même, j'adore détester les gens que je regarde, et c'est ce qui nourrit aussi mes chroniques.
C'est votre métier,
voilà, c'est un petit peu ce qui me saute aux oreilles, ou ce qui me saute aux yeux.
Ce qui est important, c'est que vous en tirez des textes qui nous permettent de comprendre à quoi on a affaire.
Mais je crois que ce qui a... Enfin, ces émissions de débat sur les chaînes infos, c'est les chaînes infos qui au départ étaient sur la priorité au direct. Enfin, l'argument de vente de BFM TV au départ, c'était la priorité au direct. Il reste toujours dans cette
breaking news.
Il reste toujours dans cette logique un peu, mais quand même, les antennes se sont trouvées recouvertes de débats à longueur de journée, quoi, du matin au soir.
Mais pour une raison économique simple aussi, c'est que les gens qui parlent sont pas payés.
Enfin, j'allais dire, la première raison, c'est que ça coûte pas cher. Ça coûte beaucoup moins cher que d'aller faire du reportage, de l'enquête, de l'investigation. Donc voilà, on met des gens autour d'une table et ça marche.
Ça coûte pas cher et ça rapporte beaucoup puisqu'on crée de l'audience en même temps.
Voilà, exactement.
Et notamment, on voit surgir, par exemple, des conseillers en communication. Il y en a de plus en plus, je trouve, sur ces chaînes qui sont pas nécessairement connus. D'ailleurs, enfin, il y a un vivier assez considérable de tous ces acteurs. On appelle ça pundits aux États-Unis, Christian Salmon.
Oui, absolument. C'est vous savez, c'est l'expertise en termes de communication. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là pour décrypter, soi-disant, les discours, les récits des uns et des autres, mais qui participent. Ce sont un peu les arbitres du, comment vous appelez ça, les pif paf, voilà, c'est les arbitres du catch télévisuel qui prétendent à une certaine neutralité axiologique, un surplomb, etc., mais qui sont complètement insérés dans le jeu.
Alors, dernier épisode en date, Samuel Gontier, c'est très récent, c'est la façon dont ces chaînes d'information se sont emparées de la mise en scène, cette fois non pas d'émissions de télévision, mais du grand débat avec un acteur principal qui est le président de la République. J'imagine que vous avez regardé ça de près.
Oui, c'est impressionnant parce que c'est des heures et des heures d'antenne qui du coup sont consacrées au grand débat, ou plutôt au show d'Emmanuel Macron. Donc c'est des shows de 6 heures qui sont retransmis en intégralité. Donc ça prend des journées entières quasiment, parce que
c'est inédit, ça. Hein.
Oui, je pense l'avoir rarement vu. Il arrive quelquefois que les chaînes consacrent toute une journée ou une grande partie de leur journée à un événement, à une commémoration avec des discours, etc. Mais là, que ce soit une personne, un président qui occupe autant de temps d'antenne pour faire un show.
Qui porte l'antenne,
voilà, sans compter les heures qui précèdent où on annonce le show et les heures qui suivent où on débriefe le show. Donc ça fait des heures et des heures d'antenne. Et eux-mêmes, les journalistes eux-mêmes, les commentateurs, expliquent que c'est un show et qu'il est en campagne électorale. Donc ils ne sont pas dupes, mais ils continuent à le commenter quand même.
Christian Salmon, comment on regarde ça?
Le grand débat national, c'est vraiment qui a été, au fond, porté par les Gilets jaunes, hein, provoqué par les Gilets jaunes. Moi, me pousse à réfléchir, au fond, dans ce chaos télévisuel, informationnel, etc., qu'en est-il de la délibération démocratique? Et, par exemple, il faut revenir aux analyses que faisait Foucault dans les années 80 sur la parésia. Il a consacré toute une année à la parésia. Et il avait un modèle très simple à expliquer. En fait, il parlait du rectangle de la parésia. Et il disait, il y a une bonne parésia et une mauvaise parésia. Dans la bonne parésia, en gros, les citoyens, la communauté des citoyens à la libre expression. Mais c'est pas tout le monde, la communauté des citoyens chez les Grecs. Ensuite, il y avait différentes conditions, différents côtés du rectangle, le courage, le fait que c'est un discours de vérité, qui n'est pas vrai, mais un discours de vérité, le discours du logos, et finalement, le risque que prend le gouvernant en affrontant le... Ça, c'est les quatre conditions de la bonne parésia. Mais, disait Foucault, au tournant du 5e et 6e siècle, il y a la mauvaise parésia. La mauvaise parésia, c'est une sorte de dégradation de ce rectangle, c'est-à-dire que tout le monde parle dans tous les sens, selon aucune règle, il n'y a pas d'ordre de prise de parole. Deuxièmement, celui qui s'exprime ne s'exprime pas en cherchant un discours de vérité, mais ce que vous disiez, Samuel, c'est-à-dire il fait campagne, c'est-à-dire il cherche à convaincre de sa vérité à lui, mais il n'a pas pour but que la communauté des énoncés, des prises de parole sorte une sorte de vérité habermassienne, hein, c'est-à-dire rationnelle, objective, née du consentement. Et la troisième chose, c'était une des conditions de la mauvaise parésia, c'est exactement ce dont on parle depuis le début de l'émission, c'est-à-dire cette espèce de chaos et d'opportunisme, de quête de l'audience. Hein. Et on le voit bien dans le cas de ce débat, pseudo-débat national, de ce show macronien, hein, c'est qu'il est là pour faire campagne, c'est-à-dire qu'il cherche l'adhésion, il cherche l'audience, il se met en scène comme affrontant une soi-disant assemblée, mais en fait il est au milieu de gens qui sont autour et dont il choisit les interventions qui lui servent de faire valoir, de tremplin pour rebondir, etc. Donc on n'est pas dans un grand débat national, on est dans cette mauvaise parésia dont parlait Foucault.
Samuel Gontier.
Oui, pour revenir justement sur le mouvement des Gilets jaunes et sur le grand débat, effectivement, BFM TV, ça a créé des problèmes à BFM TV parce que les journalistes se sont fait agresser sur le terrain et les journalistes de base ont un peu remis en cause la politique de leur direction et la manière de couvrir le mouvement des Gilets jaunes. Mais ce qu'on leur a répondu, c'est qu'on n'allait pas changer, on allait rester focalisé sur les violences parce que c'est ça qui marche. Parce que BFM TV, le 8 décembre, a fait 20, ou le 1er ou le 8 décembre, a fait 20 millions de téléspectateurs dans la journée, était la deuxième chaîne derrière TF1 sur l'ensemble de la journée. Donc, on ne change pas une recette qui marche aussi bien. Et pour revenir sur le grand débat, voilà, le grand débat sur sa vacuité, où effectivement, enfin, le grand débat s'invite chez Cyril Hanouna. On parlait de Cyril Hanouna tout à l'heure. Et Cyril Hanouna, c'est vraiment le comble de la dépolitisation. Parce que, voilà, ça fait des semaines qu'il reçoit des gilets jaunes, qu'il parle des gilets jaunes. Et c'est toujours pour faire avancer les choses. Voilà, les choses. Il veut faire avancer les choses. Il veut que les choses aillent mieux. On ne sait pas de quelles choses il parle.
Ouais. Alors, le travail que vous faites, Samuel Gontier, c'est un travail de critique, au fond. On a besoin, après avoir refermé le livre de Christian Salmon, on se dit qu'on a besoin plus que jamais de ce travail de critique des médias. C'est-à-dire que vous êtes venu après un moment de la chronique télévision qui était un peu ironique, qui avait été pratiqué par certains, où on rigolait en voyant des choses. Vous, je pense que vous allez un cran plus loin, c'est-à-dire que vous pointez des choix éditoriaux qui posent problème. Et Twitter est bien utile pour ça. Est-ce que vous croyez qu'on peut, au fond, partager cette critique? Comment vous observez les reprises de vos critiques, la manière dont, finalement, cette critique est nécessairement une critique collective qui s'élabore progressivement?
Ben on me dit que ma critique fait du bien. Enfin, les gens qui me lisent, enfin, ou qui m'apprécient en tout cas, me disent que ça leur fait du bien parce que justement, ça leur permet de prendre du recul et de rire un petit peu, parce que j'essaie de mettre un petit peu d'humour, de rire un peu de ce qui les accable quand ils regardent la télé. Et effectivement,
mais c'est pas de l'humour pour l'humour. C'est-à-dire que c'est en ça que je trouve que votre regard critique est un peu différent de celui qui a pu être porté il y a 10 ans, il y a 15 ans sur la télévision.
Oui, moi, je m'intéresse beaucoup au discours. Enfin, mes articles sont souvent d'abord une retranscription du discours, parce que mettre noir sur blanc le discours oral, très justement le vacarme qui se passe à la télévision, le fait de mettre les mots noir sur blanc tout de suite, voilà, ça a un effet révélateur.
Ça produit déjà quelque chose.
Ça produit déjà quelque chose. Donc après, il suffit éventuellement d'aller rajouter un peu d'humour pour insister sur le caractère ridicule de ce qui est dit. Oui, je reviens sur les mots parce que, enfin, on est dans un monde dépolitisé, enfin dans un univers dépolitisé où les mots n'ont plus de sens. Voilà. Où, comme le raconte Christian Salmon dans son livre, Emmanuel Macron, le jour même de son investiture, est déjà comparé à Henri IV, à Louis XIV, à Napoléon, à Kennedy, à De Gaulle. Enfin, plus rien n'a de sens. Enfin,
c'est le bastard mix des séries et de toutes les époques, de tous les siècles, finalement.
Voilà, et puis c'est le triomphe des formules qui sonnent bien, comme le Guantanamo à la française pendant après, des attentats ou des, voilà, à propos des fichiers, on se demande est-ce qu'il faut créer des Guantanamo à la française. C'est super, ça sonne bien. On oublie que Guantanamo, c'est quand même un centre de torture en dehors de tout contrôle judiciaire.
On mettra le lien sur la page de la suite dans les idées vers le blog de Samuel Gontier que vous retrouvez aussi dans les pages de Télérama chaque semaine. Nous parlions aujourd'hui de L'ère du clash, le livre de Christian Salmon qui paraît chez Fayard. On trouve la référence bibliographique sur la page de l'émission sur le site de France Culture, une page où vous pouvez réécouter l'émission, où vous pouvez également vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Chouchane Djerkaïan, à la technique aujourd'hui Valérie Lavalard, à la réalisation Rafik Zénine. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.